Éric Labastide, l'archéologie est votre spécialité. Nous parlons ce soir avec vous de prospection aérienne.
Oui, alors ce soir, on va effectivement s'envoler un tout petit peu, sortir du plancher des vaches, et on va se rendre compte que l'archéologie peut être pratiquée dans les airs.
Pas uniquement en se baladant à pied, en cherchant les vestiges. Quelle est l'origine de cette forme de prospection? C'est récent?
La première photographie aérienne qui existe, elle a été prise en 1858 par Nadar dans un ballon au-dessus de Paris. Mais en fait, la mise en place de ce système et son application dans l'archéologie est issu de la Première Guerre mondiale, en fait, où les premiers aviateurs, enfin les grands aviateurs du premier conflit mondial se sont mis ensuite à l'archéologie aérienne pour certains, et on a de grands exemples en France comme le révérend père Poidebar qui va recenser les fortifications romaines dans les anciens protectorats français du Liban et de Syrie.
Plus que la prospection à pied, la prospection aérienne demande des moyens.
Alors, demande des moyens, effectivement, mais ça permet aussi d'avoir une dimension beaucoup plus grande. Donc, effectivement, les moyens sont simples. Un avion de tourisme, mais on peut aussi utiliser un ULM. C'est moins coûteux, ça va moins vite, on couvre moins de distance. Et puis, on peut utiliser aussi l'hélicoptère. Bon, et là, on est dans des coûts assez prohibitifs. Bon, après, il suffit de se munir d'un appareil photo classique, d'un film diapo, et puis de mettre sur son appareil photo une vitesse minimum de 1/250.
Et à partir de là, quel genre de constatation va-t-on faire?
Alors, en fait, on va constater différents types d'anomalies sur le sol. Ces anomalies, on va les remarquer à partir d'un certain nombre d'indices. Le premier des indices qui peut être constaté, c'est effectivement la croissance des plantes. C'est d'ailleurs un indice qui a été repéré bien avant l'invention de l'aviation. Par exemple, un site Picard, Vendeuil-Capli, dans l'Oise, on a un texte du XVIIe siècle où un érudit local constate différents types de croissance sur les blés. Et il met en relation cette croissance avec l'agglomération gallo-romaine qu'il y avait sous terre. Donc en fait, sur des murs, des plantes vont être plus petites, généralement plus jeunes, alors que sur des fossés ou des fosses, les plantes vont se développer beaucoup plus et seront bien sûr plus vertes, en particulier en période de sécheresse. Alors après, il y a d'autres types d'indices, ce qu'on appelle les indices hydrographiques, l'humidité, qui disparaît plus ou moins vite en fonction de ce qu'il y a dans le sous-sol. Il y a aussi les indices pédographiques, où en fait le sol labouré a des couleurs différentes en fonction de ce qu'il y a en dessous. Et puis, un indice particulier, l'indice sciographique, c'est-à-dire les observations du micro-relief, ou qui peuvent être observés à partir de lumière rasante, donc en certaines périodes de la journée, et qui permettent de constater effectivement des vestiges enfouis ou pas.